européenne en incluant ici l'arme nucléaire. Guerre au Proche-Orient, le ministre français des Affaires étrangères doit lui s'entretenir à Beyrouth aujourd'hui avec les principaux responsables libanais. Une discussion lors de laquelle Stéphane Séjourné va tenter de désamorcer le conflit transfrontalier entre le Hezbollah et Israël afin d'éviter une guerre de grande ampleur. Violence policière, les États-Unis à nouveau sous le choc. I can't breathe, voilà les derniers mots prononcés par Frank Tyson, un homme noir américain de 52 ans, mort le 18 avril après son arrestation par des policiers dans la ville de Canton, dans l'État américain de l'Ohio. Avant son décès, l'homme a répété à plusieurs reprises ces quelques mots qui signifient « je ne peux plus respirer », les mêmes donc utilisés par George Floyd, un autre homme noir mort en 2020 après de longues minutes passées à agoniser sous le genou d'un policier. Et puis football, enfin pour terminer, le Paris Saint-Germain a concédé le nul face au Havre hier soir lors de la 31e journée de Ligue 1. Score final 3 buts partout. Alors qu'ils étaient menés 1 à 3, les joueurs de Luis Enrique sont revenus en fin de match. Grâce à ce nul, le Havre 15e quitte provisoirement sa place de barragiste avant le match de Metz contre Lille prévu aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
The writing's on the wall. chaque année, 10 000 personnes sont hospitalisées pour brûlures en France. Ce sont des accidents qui interviennent souvent à la maison et qui n'épargnent aucun membre de la famille. Parmi les victimes les plus fréquentes, les enfants. Il existe deux modes de brûlures, par liquide ou solide chaud. Les brûlures par eau chaude sont très courantes. Souvent, un petit moment d'inattention suffit et votre enfant ouvre le robinet d'eau chaude par exemple, ou la température du bain de bébé n'est peut-être pas adéquate. Problème, un jeune enfant met trois fois plus de temps que nous à réagir et donc à retirer sa main ou à se manifester. Et pourtant, il ne suffit que de trois petites secondes d'exposition à une eau à 60 degrés pour brûler votre enfant au troisième degré. Si les liquides trop chauds sont responsables de certaines brûlures, les solides sont de loin les plus dangereux. La cuisine est bien sûr un incroyable laboratoire pour votre enfant. Il est intrigué par le gaz, les casseroles ou le four par exemple. Mais tous ces objets qui véhiculent de la chaleur n'ont pas une apparence particulière qui pourrait permettre à votre enfant de les identifier. Il ne les distingue pas des autres objets. Ce n'est qu'en mettant sa main sur le porte du four ou la plaque électrique qu'il percevra cette chaleur. Un accident domestique est donc très vite arrivé. Alors, quelques conseils pour éviter le pire. Il existe maintenant des thermostats pour les robinets. Ils permettent de ne faire couler l'eau qu'à une certaine température et évitent donc la brûlure. Autre astuce, la sécurité anti-brûlure. Elle s'adapte au robinet et bloque l'arrivée d'eau dès que sa température dépasse les 44 degrés. Pour les plus petits, la température du biberon est extrêmement importante. 37 degrés, c'est l'idéal, mais lorsque vous faites chauffer ce biberon au micro-ondes, à sa sortie, il ne vous paraît pas chaud. Attention, n'oubliez pas de vérifier quand même la température du lait à l'intérieur. En effet, au micro-ondes, seul le contenu chauffe, le contenant étant conçu pour résister aux ondes. Des protections pour cuisinières sont en vente dans le commerce. Il s'agit de petites barrières à fixer devant le gaz ou les plaques électriques. Elles rendent l'accès beaucoup plus difficile aux zones chaudes. Elles sont donc efficaces, il ne vous en coûtera qu'une trentaine d'euros. Même idée pour le four, il existe des grilles de protection à fixer devant la vitre. Le prix reste sensiblement le même, 30 euros. Mais rien ne vaut votre vigilance, car votre enfant a vite fait de prendre une chaise pour se rapprocher du gaz. Enfin, briquets, bougies, allumettes sont des objets extrêmement dangereux pour votre enfant. Ils ne doivent jamais être à portée de main, tout comme les produits inflammables. Le meilleur dérangement pour ces produits, c'est le placard en hauteur et si possible, fermé à double tour.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé.
100% santé. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so. 'Cause I don't even care about the time I've got left. And the only thing I know now is that I wanna spend. Tonight is gonna be the sorry, babe, I gotta go. If you love me, it's me guilty, so I know the goal. And I just keep on thinking how you make me feel better. And all the crazy little things that we did together. In the end, it doesn't matter if tonight is gonna be the loneliest. the saddest part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest.
Anxieux et stressé. La solution à vos maux se cache peut-être dans la nature. C'est en tout cas le résultat du long travail d'un dénommé Edward Bach mené dans les années 30. Après un certain nombre de recherches dans le domaine homéopathique, il se dirige intuitivement vers les fleurs, persuadé de leur pouvoir possible sur la psyché humaine. Il élabore alors 38 élixirs floraux à base de fleurs sauvages, chacune censée correspondre à un état psychologique particulier. Aujourd'hui, ces différentes essences sont connues à travers le monde sous le nom de fleurs de Bach. Peur, incertitude, sentiment de solitude, découragement ou encore désespoir, les solutions du docteur Bach agiraient sur nos différents états émotionnels grâce aux principes énergétiques renfermés par certaines fleurs sauvages. Ainsi, privilégiez quelques gouttes de clématite sur la langue si vous êtes plutôt du genre tête en l'air. Cette plante redonnerait un goût soudain pour le concret. Pour les plus dépressifs, en revanche, une solution à base de fleurs de châtaignier devrait quant à elle redonner un peu de baume au cœur. Objectif, en utilisant cette solution 100% naturelle, réactiver ses aptitudes à l'auto-guérison. En effet, les fleurs de Bach ne représentent pas elles seules des antidotes contre une maladie particulière. Leurs principes actifs n'en sont pas moins reconnus scientifiquement. Il est bon de savoir aussi que la prise de ces solutions n'entraîne aucune accoutumance. Elle n'est pas non plus contre-indiquée dans le cadre d'un traitement médicamenteux. Nouveau-nés, femmes enceintes et même votre animal de compagnie peuvent bénéficier d'une cure florale façon Bach. Les essences seraient uniquement conçues à partir d'eau de source naturelle et de fleurs, celles-ci macérant quelques temps dans l'eau au soleil avant d'être mélangées à de l'alcool à 40 degrés, puis placées dans de petits flacons. Une préparation toute simple en somme, mais dont la tradition reste aujourd'hui encore préservée. Une chose pourtant reste sûre, la méthode est approuvée. Alors, pour retrouver une symphonie de douceur et de sérénité dans votre corps, les fleurs de Bach sont peut-être une solution.
La première radio sur le bien-être. Tous les jours, 24h sur 24, l'info santé, beauté, prévention, sport, consommation, recherche, bien-être. 7 jours sur 7, Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
avec Pleine Vie,
le magazine de la nouvelle vie et des nouvelles envies. Vincent Posé. Après le cancer du poumon, le cancer de la prostate est devenu la deuxième cause de mortalité chez l'homme. Maladie grave, ce cancer évolue le plus souvent lentement, parfois pendant plus de 10 années. Fort heureusement, le dépistage du cancer de la prostate existe et celui-ci est extrêmement important puisqu'il a été démontré qu'il diminue de plus de 30% le risque d'en mourir. Un Français sur deux a déjà effectué un test de dépistage du cancer de la prostate. Certes, le fameux toucher rectal est un des moyens de dépistage, mais saviez-vous que ce dernier est assez rare en fait? Dans la grande majorité des cas, on réalise un simple dosage sanguin du PSA, une protéine spécifique de la prostate. Ce dosage doit être répété tous les ans. Attention toutefois, car la valeur normale de PSA ne prouve pas systématiquement l'absence d'un cancer. En effet, il existe des taux négatifs, la valeur du PSA est normale alors qu'il y a un cancer. L'inverse est également possible, un taux de PSA élevé ne signifiant pas qu'il y a obligatoirement un cancer. Un cancer de la prostate ne sera affirmé avec certitude qu'après une biopsie, comprenez un petit prélèvement qui est fait chirurgicalement. L'Association française d'urologie recommande un dépistage organisé pour tous les hommes à partir de 55 ans et à partir de 45 ans pour tous ceux qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de l'AFU, www.urofrance.org ou celui de Radio Public Santé. C'était votre chronique.
En partenariat avec Pleine Vie,
le magazine de la nouvelle vie et des nouvelles envies. Château.
De nombreuses études ont démontré que les antioxydants pouvaient augmenter la durée de vie ou au contraire la diminuer, tout dépend de leur dose. Les antioxydants s'attaquent aux radicaux libres, des substances qui, lorsqu'elles sont en excès dans l'organisme, favorisent le vieillissement et le développement de certaines maladies comme les cancers. Les substances qui possèdent cette propriété antioxydante sont bien connues. Il s'agit principalement des vitamines E, C et A, du bêta-carotène, mais également du zinc et du sélénium. Il n'est donc pas étonnant de les retrouver dans de nombreux compléments alimentaires. Mais la prise de ces suppléments est-elle réellement sans danger? Afin de répondre à cette question aussi objectivement que possible, une analyse de toutes les publications a été réalisée, soit 47 essais réalisés chez 180 000 personnes. Il a ainsi été démontré que les prises de vitamine C et de sélénium semblent ne comporter aucun risque. En revanche, pour les vitamines A et E et pour le bêta-carotène, la supplémentation n'est pas sans risque. Les antioxydants ont donc des effets bénéfiques pour la santé à condition d'éviter les excès. Par exemple, et sauf avis médical spécifique, on peut recommander de ne pas dépasser les apports nutritionnels journaliers conseillés. Vitamine E, 30 mg, bêta-carotène, 6 mg, sélénium, 100 microgrammes, zinc, 20 mg, vitamine C, 120 mg. Quant à la vitamine A, il ne faut jamais en prendre de soi-même, sans avis médical. Autant que possible, il est conseillé de privilégier les fruits, les légumes et les épices dans notre alimentation, car ils représentent nos principales sources d'antioxydants et ils ont l'avantage d'être naturels.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé.
100% santé. européenne de sécurité des aliments, le FSA, a publié une étude affirmant que la présence d'au moins 10 nitrosamines dans les aliments du quotidien peut poser des risques pour la santé. Ces composés se forment au cours de la préparation, de la transformation des aliments et peuvent être cancérogènes et génotoxiques pour tous les groupes d'âge de la population de l'Union européenne. Le groupe alimentaire le plus important qui contribue à l'exposition aux nitrosamines est la viande et les produits à base de viande, mais elles peuvent également être présentes dans d'autres aliments comme les légumes transformés, les céréales, les produits laitiers ou encore des aliments fermentés, marinés ou épicés. L'étude souligne toutefois qu'il existe encore des lacunes dans les connaissances disponibles sur la présence de nitrosamines dans certaines catégories d'aliments spécifiques. De plus, pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, l'évaluation des risques a été effectuée en considérant que toutes les nitrosamines présentes dans les aliments avaient le même potentiel cancérigène chez les humains, bien que cela soit peu probable. Le FSA recommande donc d'équilibrer son régime alimentaire en consommant une variété d'aliments plus large pour réduire la consommation de nitrosamines. Cette recommandation sera partagée avec la Commission européenne pour déterminer les mesures de gestion des risques.
Radio Public Santé. C'est toutes les 6 minutes, un point sur votre actualité santé. Dans un instant, retrouvez votre chronique Consommation. Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien. Oh yeah.
Un goût thé à 10h, une barre de chocolat à 16h, un peu de grignotage par-ci par-là. Ne culpabilisez pas si vous vous reconnaissez dans ce profil. Ne vous en faites pas, nous sommes tous plus ou moins gourmands. Mais pour éviter les bourrelets disgracieux très peu élégants sur les plages cet été, mieux vaut réussir à faire taire sa faim. J'en conviens, l'exercice n'est pas facile, même si la volonté est là. Mais pour réussir à contrôler vos envies et à caler votre ventre, c'est ça le plus important, il faut avant tout bien savoir composer ses repas. Avant tout, n'oubliez jamais que manger doit être un plaisir et qu'un plaisir se savoure. Pas question donc de manger sur le pouce sans profiter de ce moment de dégustation. Et qu'y a-t-il de mieux qu'un bon repas sain et équilibré qui donne aussi une sensation de satiété jusqu'au suivant? Cet effet est garanti par deux catégories alimentaires, les fibres et les protéines, dont on dit qu'elles calent notre estomac. Les protéines d'abord ont un effet qui coupe la faim, très utilisé dans les régimes alimentaires. Pour faire simple, lorsqu'on ingère des protéines, eh bien cela stimule la synthèse de glucose par l'intestin, ce qui génère en retour un signal de satiété pour le cerveau. Les protéines se trouvent dans la viande, le poisson, les œufs et les céréales. Il est important d'alterner ces sources d'approvisionnement car par exemple, les protéines d'origine animale sont mieux assimilées par notre corps. Mais en contrepartie, elles s'accompagnent souvent d'un plus fort apport lipidique dû à la présence de graisse dans les morceaux de viande, chose que l'on ne retrouve pas par exemple dans les céréales. Parlons à présent des fibres. Elles aussi agissent un peu comme un coupe-faim, mais pas de la même manière que les protéines. En fait, elles s'imbibent d'eau dans notre estomac, ce qui a pour effet de les faire gonfler et donc de donner une impression de satiété. Bien sûr, il n'est surtout pas question de se nourrir seulement aux fibres et aux protéines. Votre équilibre alimentaire serait totalement déstabilisé et cela deviendrait dangereux pour votre santé. Ces petits trucs et astuces pour couper la faim doivent s'intégrer à une alimentation équilibré qui, je vous le rappelle, est la seule solution efficace permettant de garantir un poids stable après un régime.
La radio qui vous veut du bien avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé et nous parlerons de votre chronique famille. Ça sera juste après ceci, à tout de suite. Assez de devoir attendre pour écouter un point complet sur l'information? Écoutez Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes. Autour de l'actualité nationale et internationale, nos 45 journalistes experts vous parlent 24 heures sur 24 de l'actualité sportive, high-tech, technologie, immobilier, juridique. Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes, c'est sur votre smartphone ou tablette avec l'appli Replay News et sur replaynews.net. Santé.
La radio qui vous veut du bien.
This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile. As I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while. So I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. Let me down, down.
And I can't stop myself from falling. lonely. A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Slowly.
Radio Public Santé. Votre chronique famille. Jessica Daguerreau.
Il y a les pour et les contre. Certaines la jugent dangereuse, alors que pour d'autres, il s'agit d'une véritable révolution focus sur la péridurale. Sachez déjà que nous y avons toutes droit, à moins de présenter une infection au niveau du dos, des troubles de la coagulation du sang ou certaines maladies neurologiques. Au moment de votre accouchement, un médecin anesthésiste viendra vous examiner et vérifiera que vous ne présentez pas de contre-indication. Arrive alors le moment de la piqûre dans le bas du dos entre deux vertèbres lombaires. Cela permettra d'y insérer un petit tuyau dans lequel le médecin y injectera un produit anesthésique en surveillant votre tension et votre rythme cardiaque. On vous posera probablement une sonde urinaire car la péridurale supprime l'envie d'uriner. Alors oui, sur le moment, c'est un peu douloureux. Quand on sent l'aiguille rentrer, ce n'est jamais très agréable. En revanche, après quelques minutes, 10 à 15 minutes environ, la douleur liée aux contractions utérines est nettement soulagée. Attention, il peut y avoir certains effets secondaires, mais ils sont généralement bénins. Une douleur dans le dos et, mais c'est vraiment très rare, une forte hypotension et des maux de tête pendant quelques jours. Évidemment, il n'y a aucun danger pour votre enfant. Cela permet d'atténuer les douleurs et peut-être aussi de raccourcir la durée du travail car vous êtes plus détendu. C'est donc une décision très personnelle qui dépend de votre résistance à la douleur et de votre conception de l'accouchement, quoi qu'il en soit. Souriez, c'est le plus beau cadeau que peut vous faire la vie.
C'était votre chronique famille. Réécoutez cette chronique sur internet. www.publicsanté.com.
ici aujourd'hui avec Julie. Attention, Julie prend un verre. Julie pile des glaçons, elle presse un citron, une orange même. Et la voici proche du but, Julie qui s'approche de son amie Emma. Elle lui tend le verre. Emma qui, grâce à Julie, pourra enfin boire autre chose que de l'eau. Et la joie, mesdames et messieurs! La joie dans les yeux d'Emma, la joie, mesdames et messieurs!
Pendant la grossesse, soyons tous solidaires et supporters du zéro alcool. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Occasionnel, amateur ou professionnel, bien s'alimenter est un enjeu crucial. Surveiller son alimentation permet d'éviter les coups de fatigue et les baisses de performance. Un bon régime alimentaire pour se préparer à l'effort se résume en deux mots, il doit être équilibré et diversifié. De quoi a-t-on besoin pour faire du sport? Eh bien des glucides, des lipides et de protéines. Les glucides sont les principaux fournisseurs d'énergie aux muscles. Dès le début de l'effort, le corps ira chercher dans ses propres réserves. Les glucides sont composés de sucre. Il y en a qui sont sont immédiatement transformés en énergie, ce sont les sucres rapides. D'autres sont assimilés plus lentement par le corps, ce sont les fameux sucres lents. Ils permettent de continuer l'effort même quand les sucres rapides se font plus rares. On trouve des glucides à l'utilisation rapide dans les céréales, les jus de fruits, le pain blanc et le sucre. Les sucres lents sont plus présents dans le riz blanc, les pâtes, les pommes de terre et les légumes secs. C'est pourquoi il faudra manger des féculents au moins 3 heures avant l'effort et absorber des aliments à sucre rapide juste avant et pendant l'effort. S'alimenter en lipides quand on fait du sport est essentiel. Ils doivent représenter 30 à 35% de l'alimentation car ce sont eux qui prennent le relais des glucides quand l'effort dure plus d'une heure et demie. On trouve ces lipides dans les huiles végétales, les œufs, le poisson gras et le beurre frais. Après 3 heures d'effort, les lipides produisent 80% de l'énergie dont le corps a besoin. Les protéines permettent au corps de reconstituer le tissu musculaire pendant l'effort. Elles ne doivent pas être négligées car lorsque les muscles sont fatigués, alors il y a des risques de crampes et de lésions. Les protéines sont présentes dans les céréales et légumes, ce sont des protéines végétales. Il existe également des protéines animales présentes dans les viandes, poissons, œufs et produits laitiers. Il faudra essayer d'équilibrer les apports entre ces deux types de protéines dans son alimentation. Les vitamines B, C et D présents dans les fruits, légumes, viandes et produits laitiers sont complémentaires pour bien s'alimenter en vue d'un effort. Des minéraux comme le zinc, le magnésium, le sodium et le potassium sont également présents dans ces aliments et nécessaires à la pratique sportive. Enfin, il faut s'hydrater avant, pendant et après l'effort. On peut boire de l'eau ou des jus de fruits par petites doses, mais régulièrement. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir soif pour boire.
Pour plus d'informations sur votre actualité santé, consultez le site internet de Radio Public Santé, Radio Public Santé, et abonnez-vous gratuitement à la newsletter de notre rédaction. www.publicsante.com.
Set my world on fire. They never sur l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de Ripley News. Claude Varan, bonjour Claude.
Bonjour à tous. L'annonce a été faite ce dimanche par le ministre de la Justice lui-même. Le gouvernement va créer un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée. Ce nouveau parquet viendra renforcer notre arsenal juridique pour mieux lutter contre la délinquance du haut du spectre. Voilà ce qu'a expliqué donc aujourd'hui Éric Dupond-Moretti. L'ancien procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, nommé il y a quelques jours conseiller spécial du ministre, sera quant à lui chargé d'une concertation en vue de définir les contours de cette réforme. Les détails de celle-ci seront présentés normalement en octobre, a précisé le garde des Sceaux. Elle est convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme, et ce pour des propos réagissant à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Mathilde Panot a appelé ce dimanche à la mobilisation, mardi prochain à 8h30, porte de Clichy, un rendez-vous pour la défense de nos libertés fondamentales, a expliqué la chef de file des députés de la France Insoumise.